liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con.
Bonjour.
Bonjour. Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent, ici les citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications pour une société plus juste et plus solidaire. Vous voulez réagir? Voici notre mail, paroledecitoyens@frequence7.net, minuscule, singulier et tout attaché. Nous lisons tous les mails que vous nous adressez. Au menu du jour, comme il se doit, une entrée, un plat de résistance et un dessert. En entrée, nous ferons le point sur les luttes, actions, conférences passées et à venir sur notre territoire. En plat de résistance, nous parlerons d'un des aspects d'une possible démocratie, le contrôle des citoyens autour de la question des élections. Et nous terminerons toujours en solidarité avec le peuple palestinien génocidé, en partageant avec vous une recette. Surtout, prévoyez papier et crayon. Bon appétit! Alors, pour démarrer, Edwige, je te laisse la parole à la fois pour en démarrant par une petite musique qui introduit le sujet suivant.
On va écouter une musique en rapport avec le sujet.
Je préfère manger à la cantine, même si le beurre c'est de la margarine. Tant pis s'il y a des cailloux dans les épinards, je préfère manger au réfectoire.
Alors le jeudi 23 mai, 14 agents territoriaux du lycée Gimond d'Aubenas se sont mis en grève devant les grilles de l'établissement, perturbant ainsi le service de la cantine. Les raisons de leur colère: la gestion du personnel par leur responsable technique régional, RTR, qu'ils jugent incompétent et à l'origine de comportements inappropriés dans un cadre professionnel. Les agents mettent aussi en cause le comportement général de leur chef d'équipe qui se permet des commentaires personnels inappropriés, dont l'envoi de SMS en dehors du cadre professionnel. Ces salariés, visiblement très majoritairement des femmes, exigent d'être respectés. Le même jour, un rassemblement a eu lieu le matin devant les locaux de France Travail. Pour les anciens, ça s'appelait encore Pôle emploi ou alors l'ANPE, mais le changement de nom n'est pas au reflet, ce changement de nom ne donne pas pour autant une meilleure efficacité. Ce rassemblement protestait contre la réforme du chômage en cours catastrophique qui s'applique maintenant. À l'agence d'Aubenas qui couvre la partie sud du territoire, il y a 500 offres d'emploi pour 11 700 demandeurs d'emploi. Et malgré cela, on fait peser sur les demandeurs d'emploi eux-mêmes la responsabilité du manque d'emploi en leur supprimant des aides, en supprimant l'ASS, en rallongeant les durées de cotisation nécessaires pour être indemnisés. Yann Godin, lanceur d'alerte de Pôle emploi, a écrit récemment « Petit répit avant la sauvagerie ». On nous annonce finalement l'entrée en vigueur au 1er décembre 2024 de la nouvelle lame très tranchante en matière de protection des salariés en situation de chômage, avec les détails techniques dans un décret au 1er juillet. Nous serons alors quasiment le pays le plus insécurisant d'Europe, tous paramètres combinés. Conditions d'accès, durée et montant d'indemnisation. Il faudra désormais avoir travaillé minimum l'équivalent de 8 mois à temps plein sur 20 mois pour bénéficier de la protection par une indemnisation. Sinon, ce sera la très grande pauvreté du RSA, rien du tout pour les jeunes, ou le suicide. Vous ne serez plus indemnisé que maximum 15 mois si vous avez moins de 57 ans. Après, ce sera la très grande pauvreté du RSA. Vous ne serez plus indemnisé que maximum 30 jours par mois, donc vous perdrez des jours d'indemnisation. Pour rappel, il n'y a actuellement qu'un emploi sur 5 pour 5 personnes en situation de chômage, et encore, en comptant les contrats courts et à temps partiel. Appauvrir sauvagement des millions de Français, est-ce que ça va faire pousser des emplois? Dans un territoire où la précarité et les petits contrats sont pléthores, on imagine les conséquences pour la population. Et maintenant, Dominique, je pense que tu voulais nous parler du PLUI, PADD, c'est ça ?
Ben, on continue, puisqu'on en a parlé d'autres fois, plusieurs reprises. Et la dernière fois, on vous avait annoncé qu'il y avait des réunions sur le territoire, où on était tous invités, sur les différentes communes, où on devait nous présenter le fameux PADD, le plan d'aménagement durable et je ne sais plus quoi d'ailleurs, de développement durable.
Développement durable.
Voilà, qui est la première étape avant de passer ensuite à la rédaction et au vote du fameux PLUI qui va remplacer les PLU. Et donc, je suis allée, moi, assister à une de ces réunions dans une des communes. Voilà, c'était à peu près le même schéma partout, c'est-à-dire qu'il y avait des élus et des techniciens qui étaient là pour présenter ce dossier et discuter avec les habitants présents. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, il y avait très peu d'habitants présents. Hein, en gros, on a des réunions qui oscillent entre 10 et 30 personnes, y compris les élus et les personnels venus exprès. Donc ça fait quand même peu de choses, même à Aubenas, qui est une grande ville pourtant, par rapport aux autres, il y avait très peu de monde. Et les élus, ça leur donne quand même toute latitude pour faire ce qu'ils veulent, si les habitants ne se préoccupent pas davantage de ce qui se dit et ce qui se prépare. Et les réponses apportées par les élus de la communauté de communes aux questions posées sont quand même systématiquement de botter en touche sur le mode « voyez avec votre maire ». C'est-à-dire que quand un citoyen posait une question par rapport à quelque chose qui se passait dans sa commune, il disait « allez voir ça avec votre maire, moi je ne réponds pas à sa place », ou bien c'est l'État qui nous impose ça, si ce n'est pas l'Europe, et voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Donc on se dit que le dialogue n'est pas très 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 constructif dans ces conditions. Alors l'étape suivante, ça va être le PLU lui-même, sur lequel nous aurons à nous prononcer dans les mois qui viennent. À ce sujet, nous avons pointé lors d'une précédente émission notre étonnement de voir que dans le volet économique du PADD, priorité donnée au tourisme avant l'agriculture. On peut rappeler quand même ces chiffres à nos élus, mais nous en reparlerons, je pense, au moment du PLUI. Nationalement, les 60 000 fermes en agriculture biologique emploient en moyenne 30% de main-d'œuvre en plus que les fermes conventionnelles, amenant ainsi du dynamisme dans les zones rurales. Et elle contribue ainsi à maintenir nos villages vivants avec des écoles, des commerces et des bistrots. Donc ça serait bien que tout le monde s'en rappelle au moment de faire des choix économiques et d'aménagement du territoire. Je crois, Edwige, que pour le point suivant, on avait une petite musique en intro.
Une petite musique de Pépère le nucléaire.
Pour les fissures, un coup de peinture. Pour la piscine,
de la régie.
S'il y a une fuite,
j'attends la suite.
Et pour le cœur,
avec sa tombe.
Alors on va parler de Tricastin parce qu'un trou a été découvert dans un bâtiment nucléaire. Alors que les zones nucléaires sont censées être parfaitement étanches pour éviter la dispersion de radioactivité dans l'environnement, à la centrale de Tricastin en Rhône-Alpes, du Tricastin, EDF a découvert une voie de communication entre un bâtiment nucléaire et une galerie souterraine. Celle-ci n'étant pas supposée recevoir de radioactivité, elle n'était pas surveillée comme doit l'être une zone nucléaire. On ne sait ni de quel bâtiment nucléaire il s'agit, bâtiment réacteur, combustible, etc., ni de quelle galerie, ni de quand date la découverte d'EDF. L'annonce se résume à 5 lignes. Elle a été faite le 6 mai 2024, soit 2 mois après qu'EDF ait déclaré les faits aux autorités. L'industriel y parle d'une anomalie permettant la communication entre un bâtiment classé zone nucléaire et une galerie située en dessous, classée zone conventionnelle. Quel type d'anomalie? Depuis quand était-elle là? Qu'est-ce qui l'a causée? À quelle occasion a-t-elle été détectée? Autant de questions qui ne trouvent pas de réponse dans le bulletin d'information du public rédigé par l'exploitant nucléaire. Cet événement significatif apporte la preuve que le confinement de la radioactivité n'est pas respecté au Tricastin et qu'EDF n'est donc pas en mesure de surveiller d'éventuelles contaminations de la population et de l'environnement. Donc toujours au sujet de l'environnement, je voulais vous parler des suites à Saint-Pierre-de-Colombier. Le 23 mai, décidément, ce jour est à commémorer. Les habitants de Saint-Pierre-de-Colombier ont constaté la reprise des travaux sur le site du projet de basilique, sous la forme de barrières érigées avec du bétonnage, sur une zone bien plus importante qu'auparavant. Quid de l'interdiction des travaux ? Quid des espèces protégées présentes sur ce site ? Pour alerter les autorités, des amis de la Bourge ont interpellé la préfète qui était en visite dans des communes voisines ce jour-là. Tout le monde était au courant de ce déplacement de la préfète. Donc la FMND aussi, je suppose. Est-ce un hasard qu'ils reprennent le chantier le même jour ? Une provocation de leur part ? Un doigt d'honneur à l'État ? Les amis de la Bourge ont donc porté plainte contre la FMND pour la reprise de travaux. À venir le samedi 15 juin, de 16h à 22h, il est prévu un rassemblement festif familial à Saint-Pierre-de-Colombier. Au programme, il y aura des balades thématiques dans et autour du village, une buvette, un stand de crêpes, pizza, salade, suivi de deux concerts à partir de 19h. Et maintenant, Dominique, tu voulais nous parler de la santé de l'hôpital, je crois ?
Mais on continue, oui, effectivement, la grosse préoccupation, une des grosses, mais enfin, celle-là, elle est grosse, hein, préoccupation des habitants du territoire, c'est l'état de notre hôpital. L'association des usagers de l'hôpital, nous l'avions annoncé, était présente devant l'hôpital mardi 21 mai, et donc j'y étais. Elle a diffusé un tract d'information sur la situation de l'hôpital, intitulé « Qui veut la mort de l'hôpital ?». Et dans ce tract, on trouvait un petit récapitulatif de la situation. Après la fermeture du service d'hospitalisation de gastro-entérologie depuis plus de 2 ans, la fermeture la nuit du service des urgences d'avril à juillet 2023, des fermetures sporadiques de ce service après la période de l'été tout au long du dernier semestre 2023, le service d'hospitalisation de cardiologie a été fermé l'été 2023. On nous annonce la fermeture du service de pédiatrie pendant une semaine fin avril et ce n'est pas fini. Il semblerait que le service d'oncologie va perdre son médecin. On voudrait favoriser la clinique du Vivarais que l'on ne s'y prendrait pas autrement. Donc effectivement, c'est ainsi dans ce tract que l'association résume la situation et les enjeux entre public et privé de notre système de santé. Force est de constater que les constats sont largement partagés par la population rencontrée sur place et de nombreux soignants, ça je l'ai bien vu. Les usagers font état de fermeture de services, temporaires ou définitives. Et je vais relayer un témoignage que j'ai reçu hier. Une honte en Ardèche, service des urgences d'Aubenas, accès refusé pour une morsure de chien au visage. Mon fils se fait mordre par un chien au visage et pas un seul médecin pour le prendre en charge, dimanche 26 mai 2024. Donc voilà où on en est. Je pense qu'à la rentrée, il faudra prendre des dispositions pour que tous les habitants se mobilisent pour changer la donne, parce que sinon on est mort, quoi. Autant le dire tout de suite. Alors ensuite, je crois aussi, pour rester un peu dans le domaine du sanitaire et du social, que les travailleurs sociaux d'Ardèche se mobilisent aussi, Edwige.
Oui, il y a le collectif Social Castagne qui regroupe des travailleurs sociaux ardéchois qui va se mobiliser pour la sauvegarde de la qualité de leur travail au service de la population, qui reste mobilisé et qui organise sa 3e édition de la fête du travail social. Une soirée festive, militante, ça sera le samedi 8 juin à Aubenas à partir de 18h et ça se passera au Rocacois derrière le lycée Astier. Au menu, une table ronde sur la violence au travail, des débats, des infos et de la musique et bien sûr une buvette. Et pour finir la rubrique des luttes, on va terminer avec... les rassemblements hebdomadaires qu'on a tous les samedis à 11h à l'Agora pour soutenir la Palestine, pour réclamer un cessez-le-feu immédiat, la fin des massacres. Et on est toujours mobilisés. On vous signale aussi qu'il y a un concert de soutien prévu toujours au Rocacois le 22 juin à Aubenas. Notez-le dès maintenant dans vos agendas. Vous en entendrez reparler. Tous les bénéfices seront reversés à des associations humanitaires intervenant à Gaza.
Alors maintenant qu'on a fait le point un peu sur ce qui se passe sur notre territoire, on va attaquer le plat de résistance.
Oui, il est temps de se poser la question. Alors, La question que je te pose, Dominique, c'est comment s'exerce le contrôle citoyen pendant les élections ?
Alors, le contrôle citoyen, ça n'est qu'un morceau de la démocratie, on va dire. Hein. Voilà, on est dans un pays qui se prétend démocratique. On a bien vu avec le mouvement des Gilets jaunes que cet état démocratique, le moins qu'on puisse dire, il pouvait être amélioré. Hein, voilà, on va rester très...
très soft.
Très soft, voilà. Mais dans le même temps, effectivement, de toute façon, les exigences de la démocratique de la population, elles vont croissant. Nombreuses sont les personnes qui ne veulent plus voter depuis 2005, avec un sentiment de trahison très fort qui les habite, du fait que les dirigeants du pays, autant les uns que les autres d'ailleurs, n'ont pas appliqué les conclusions du vote, puisqu'à l'époque, la majorité des Français avaient voté contre le projet de constitution européenne et que la France a été pour la constitution européenne. Donc là, c'est resté en travers et beaucoup de gens avec qui je discute, moi, me disent « Moi, depuis 2005, c'est terminé, je ne vote plus ». Cette situation est massive et touche toutes les générations. Alors, est-ce qu'on doit s'en contenter, croiser les bras en regardant les décisions se prendre sur notre dos ? En tout cas, on peut imaginer qu'il vaut mieux faire autre chose que s'en contenter, parce que sinon, on voit bien ce qui se passe, c'est de pire en pire. Et bon, on s'est dit avec Edwige, peut-être qu'on va essayer d'émission en émission, peut-être pas à chaque fois, mais d'aller vers une discussion autour de comment ça serait si c'était un peu plus démocratique, comment on pourrait avoir une société un peu plus démocratique, quelles seraient nos exigences, nos propositions, nos attentes en la matière. La démocratie, elle se joue à plein de niveaux, pas seulement comme nos représentants ne nous représentent plus, et le bilan nous paraît clair, si on ne remet pas du contrôle des citoyens partout et tout le temps, on ne pourra pas améliorer la situation. Donc dès le début du processus électoral, dès lors qu'on considère qu'il est normal que les citoyens aient le droit et le pouvoir de voter, nous pouvons prendre l'habitude de veiller au grain, de surveiller, de contrôler, d'empêcher les magouilles et malversations diverses. Car oui, sinon on tombe vite dans des pratiques mafieuses du style vote des morts, bourrage d'urnes, fausse liste électorale, etc. Et ça, on l'a connu en France, assez régulièrement. Et il n'y a pas que dans les républiques bananières que ça arrive, sauf à considérer que la France serait une république bananière, ce que je n'ai pas dit. Alors, quelques exemples quand même pour vous rafraîchir la mémoire et que vous vous disiez « mais oui, ça peut arriver chez moi ». Aux dernières élections, pas mal de bureaux de vote n'ont pas affiché leurs résultats, or c'est obligatoire. Au municipal de 2020, à Étang-Salé à La Réunion, bourrage d'urnes et irrégularités sur les procurations. Toujours au municipal de 2020, un maire isérois a voté pour deux amis sans avoir de procuration. Législatif de 2017 à Toulon, bourrage d'urnes. Municipal de 2008 à Perpignan, le président d'un bureau de vote a été surpris avec des bulletins de vote plein les chaussettes.
Il avait des grandes chaussettes,
tu vois. Et voilà, le mec s'était mis des chaussettes de sport, là. À Paris, de 1987 jusqu'en 1999, fraude électorale massive portant sur de faux électeurs dans le 5e arrondissement, donc plus de 3000 électeurs fantômes en 1997, et il s'agissait en fait d'électeurs faussement domiciliés dans l'arrondissement. Et ça a été également le cas dans le 3e arrondissement. C'est ce qu'on a appelé le système Chirac à Paris, qui a servi à l'aider à être maire de Paris pendant fort longtemps. D'ailleurs, on peut se demander si le système qui est en cours dans une commune comme Saint-Pierre-de-Colombier ne s'en rapprocherait pas. Quoi. Voilà. Pour éviter ces dérives, la loi prévoit un certain nombre de règles. Mais bien sûr, s'il n'y a personne pour veiller à ce qu'elle soit appliquée, vous pensez bien que ça peut très vite devenir la fête pour certains. Alors oui, nous, citoyens, votants ou non, notre premier devoir de citoyen est de surveiller et alerter en cas de problème. Sans non plus s'affoler pour pas grand-chose, un manquement à la loi et une fraude, ça n'est pas pareil. Souvent, le manquement à la loi est une négligence, mais elle peut être utilisée par des personnes malveillantes pour frauder. Et puis souvent, le simple fait de se savoir surveiller fait reculer les fraudeurs potentiels. Edwige, est-ce que tu peux maintenant nous dire concrètement comment ça peut se passer ?
Rapidement, donc, je vous explique comment vous y prendre pour cela. Donc, la loi prévoit la présence et l'implication des citoyens dans le déroulé des votes sous trois statuts. On peut être scrutateur, assesseur ou délégué. Chaque bureau de vote est composé d'un président et au moins deux assesseurs et un secrétaire. L'assesseur, donc les deux assesseurs sont désignés par une organisation politique pour un bureau de vote. En cas de manque d'assesseurs, donc il en faut au moins deux, il y aura lieu de désigner les assesseurs manquants parmi les électeurs et lectrices présents dans le bureau à l'ouverture, sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant. Les lecteurs et lectrices, la plus âgée s'il manque un assesseur. Le ou la plus âgée ou le plus jeune s'il manque deux assesseurs. Les assesseurs font partie du bureau de vote et le travail est réparti entre eux tout au long de la journée et lors du dépouillement. Il est souhaitable que le ou la présidente répartissent les tâches entre les assesseurs avant l'ouverture du scrutin, notamment en ce qui concerne la tenue des listes d'émargement. Il est recommandé de vous assurer que tous les assesseurs tiennent à tour de rôle le cahier d'émargement. Ne laissez pas le ou la même assesseur tenir ce cahier trop longtemps, toutes les 2 heures par exemple, ça ira. Rappelez bien, si nécessaire, qu'il est interdit de consulter les émargements durant le déroulement du scrutin. Il s'agit d'empêcher notamment toute possibilité de contacter des amis afin de les faire venir voter. Le ou la présidente, après avoir fait constater que l'urne transparente est vide, la ferme à l'aide de 2 cadenas dissemblables dont les clés restent. Le jeu de clés d'un cadenas entre les mains du ou de la présidente, l'autre jeu de clés du 2e cadenas entre les mains d'un ou d'une assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs. Ne laissez sous aucun prétexte une urne échapper à la vue de toutes, et y compris pour le comptage des enveloppes qui se fait en public. La composition du bureau demeure inchangée durant le scrutin. Il n'est pas indispensable que tous les membres du bureau siègent en permanence, mais outre le ou la présidente ou son ou sa suppléante, au moins une assesseur et le ou la secrétaire administrative doivent être présents en permanence, soit 3 personnes. Tout le déroulement des votes et des dépouillements ainsi que la proclamation des résultats sont très précisément codifiés et doivent être respectés. Si vous voulez vous impliquer, n'hésitez pas, c'est très intéressant à faire au moins une fois dans sa vie. Rapprochez-vous de l'organisation politique la plus proche de vos opinions et proposez-vous. Si vous êtes désigné, cette organisation vous donnera toutes les informations nécessaires que vous pouvez aussi trouver sur Internet. Sinon, tentez votre chance dans un bureau de vote en vous y présentant dès l'ouverture. Ils en manqueront peut-être. Pour le rôle de délégué, il est présent sur un ou plusieurs bureaux de vote pour veiller à ce que tout se passe bien. Il est moins impliqué que l'assesseur. Vous l'avez compris, le plus important, c'est l'assesseur. Mais il est parfois difficile pour les organisations d'en avoir partout. Le scrutateur, je te laisse Dominique nous expliquer ce que c'est.
Oui, rapidement, les scrutateurs, c'est ceux qui participent toujours de façon bénévole et volontaire aux opérations de dépouillement en fin de journée. Donc dans chaque bureau de vote, en présence des délégués des électeurs, le dépouillement commence immédiatement après la clôture des votes, dès qu'ils arrêtent. Et ce sont les scrutateurs qui font ce travail en étant guidés par le président du bureau de vote et par les assesseurs. La procédure de dépouillement, elle est très précise, il faut la respecter. Donc ce sont les dirigeants, ceux qui guident le bureau de vote qui donnent les consignes. Donc n'importe qui peut être scrutateur, il suffit de se proposer au moment du vote dans la ville où vous êtes, quoi. Voilà. Enfin, on espère vous avoir été utile, surtout pour vos vocations de citoyen. Et on va embrayer maintenant sur la dernière partie avec une
la
petite
recette,
musique.
Une musique avant la recette.
Voilà, et la musique.
Alors, la recette d'aujourd'hui, Dominique, c'est une crème dessert hollandaise. Donc, on fait une petite référence par rapport à la CPI, la Cour internationale pénale, qui est basée à La Haye. Donc la spécialité d'aujourd'hui, c'est le vla qui se consomme généralement froid. Et ça peut être consommé aussi avec une crème fouettée. Donc pour les ingrédients, 600 ml de lait entier, une gousse de vanille, 30 g de sucre semoule, 20 g de fécule de maïs, 2 jaunes d'œufs, une pincée de fleur de sel. Donc vous versez le lait dans une casserole, vous mettez à chauffer avec la gousse de vanille que vous avez égrenée avant, vous le portez à ébullition et puis vous le laissez mijoter à feu très doux pendant 10 minutes. Pendant ce temps, vous mélangerez les œufs, le sel, la fécule de maïs et le sucre. Et donc, vous allez mettre un peu de lait dans le batteur. Une fois que vous avez mélangé tout ça, vous mettez un peu de lait chaud dans le batteur et vous reversez le tout dans la casserole. Et vous allez faire cuire ça à feu doux, tout en remuant. Vous laissez épaissir jusqu'à la formation d'une crème liquide entre 1 et 2 minutes. Et ensuite, elle va continuer à s'épaissir après son refroidissement. Donc ça se sert soit tiède, soit froid. C'est très bon aussi. Vous pouvez le garder au réfrigérateur 2 à 3 jours. Bon appétit.
Et donc, on va terminer là-dessus en vous rappelant les mails pour vos réactions, infos et suggestions. Parole de citoyen, @fréquence7.net. On remercie Sylvain une fois de plus de nous avoir aidés et à très bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con.